Eh bien, la semaine passée, on avait commencé à parler. On a dit, on va sûrement faire 2 semaines, peut-être 3, on verra, sur les transferts. J'avais donné un peu l'exemple que quand on fait un long voyage puis on veut arriver à destination, eh bien, qu'on y aille en avion ou peu importe, on a souvent des transferts à faire. Amen. L'auto, des fois, se rend jusqu'à l'aéroport, l'avion, après ça, transfert dans un autre aéroport. Puis des fois, quand c'est une grosse aéroport, faut même prendre un petit train à l'intérieur de l'aéroport pour se rendre à l'autre gate. Et puis, après ça, un autre avion, puis un autre auto. Puis si on n'accepte pas les transferts qui se font, on ne se rendra pas à la destination. On a démontré qu'en Dieu, il y a des transferts à un moment donné qu'on doit faire aussi. On a parlé la semaine passée qu'une des premières choses qu'on doit transférer, c'est transférer nos pensées. Puis les transférer à penser comme Dieu pense. Amen. On ne peut pas rester avec nos pensées si on arrive à destination. On sait très bien que dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 10, 5, ça dit qu'on doit emmener toute en pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que nos pensées, on doit les captiver, dire non, tu penseras plus petit comme ça, puis tu penseras plus toujours négativement, puis tu penseras plus qu'il y a rien que toi que c'est ça, puis tu penseras plus que c'est juste à toi que ça arrive, tu penseras plus comme ça. La parole de Dieu dit d'emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire qu'en quelque part, il faut faire un transfert dans nos pensées. On a vu, on sait aussi comment les Israélites ont peut-être sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'a jamais sorti d'eux autres. Et puis, il y a plusieurs personnes que tu as beau les emmener à l'église et puis prêcher, mais s'ils ne transfèrent pas leurs pensées puis dire là, c'est pas comme ça. Puis ça, c'est se corriger continuellement, vous savez, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous corriger, pour nous instruire, c'est ce que c'est écrit dans Timothée. Amen. Et bien des fois, dire non, là, tu penses pas comme il faut. Puis des fois, il faut se parler. Amen. Et puis les Israélites auraient dû corriger leurs pensées, au lieu de trop penser comme il pensait lorsqu'il était en Égypte. Amen. Alors, on a dit qu'il va falloir transférer nos façons de penser, puis il va falloir transférer nos façons de voir les choses aussi. On a dit qu'il faut s'habituer à voir de loin, puis voir aussi les choses invisibles, parce que les choses visibles sont temporaires. Amen. Mais tandis que les choses visibles sont invisibles sont éternelles. Fait qu'il faut s'habituer à voir dans l'invisible. Qu'est-ce que ça veut dire, voir dans l'invisibilité? Ça veut dire s'habituer à voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu, lui, était comme ça. Il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est voir à la façon de Dieu. Et vous savez, dans Éphésiens 2, 6, la parole de Dieu nous dit que Jésus, lui, s'est assis à la droite de Dieu, dans la droite du Père, mais qu'il nous a emmenés avec lui, puis on est assis avec lui dans les lieux célestes. Savez-vous que quand on regarde les choses d'en haut, ça nous paraît beaucoup plus petit que quand on les regarde en bas, puis on les regarde face à face? Si moi, je regarde mon problème en avant de moi, ma montagne, elle me paraît grosse, mais si je vais m'asseoir avec Jésus dans les lieux célestes, là où je suis posé d'être assis, puis que je regarde en bas, vous allez voir que la montagne va avoir l'air d'un tinique à fourmis. Amen. S'habituer à voir, à transférer notre façon de voir les choses. Comment Dieu, lui, les voit, ces choses-là. Amen. Dieu, lui, voit que les choses sont toutes sujets à changement. Premièrement, Dieu, il regardait la terre informe et vide, puis il la voyait déjà remplie, puis il voyait déjà les eaux séparées de la terre, puis il voyait déjà la verdure, les poissons, les oiseaux, puis il nous voyait déjà là. C'était déjà planifié, puis ça, il a pris rien que 6 jours à le faire. Amen. Dieu, il voit les choses finies. Quand il nous regarde, premièrement, il nous voit au travers de Jésus. Amen. Il nous regarde chacun de nous. Puis si on a revêtu Christ, comme la parole de Dieu dit, il nous voit comme ça. Il voit pas les problèmes qu'on a. Il voit pas qu'on est grand, gros, petit, n'importe comment, plein de défauts. Lui, il nous voit au travers de Jésus. Alors, nous autres aussi, il faut s'habituer à regarder comme ça. si on se regarde dans le miroir et on dit, je suis bon rien, puis je réussirai jamais, puis on sait bien, moi, je suis pas comme les autres, puis on se voit pas. Il faut changer notre façon de voir les choses. Amen. Il faut les transférer. C'est pourquoi qu'il faut faire ça si on veut arriver à la destination qu'on s'est déterminé d'obtenir. Amen. Il faut changer, il faut transférer notre façon de penser, il faut transférer notre façon de voir les choses. Et ce soir, on va regarder qu'il faut transférer nos excuses, nos émotions, nos peurs en foi. Amen. Il faut s'habituer à transférer. Pour ça, il faut se corriger encore. Qu'est-ce que c'est une excuse? Une excuse, c'est une raison que l'on se donne pour se disculquer ou pour se soustraire à une obligation. C'est une raison qu'on se donne. Ah, ben moi, je ne suis pas pareil comme les autres. Moi je ne chante pas. En accord avec Pasteur Brian, tout le monde peut chanter. Parce qu'il y a un programme sur son ordinateur que si le monde le suit, ils sont capables de chanter. Je t'avais de le suivre. Amen. Moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas les habiletés que toi, tu as. Moi, c'est pas pareil. Je suis pas vraiment capable de faire ça. J'ai pas la patience pour ça. Il faut arrêter les excuses. C'est sûr que si une personne, elle pense toujours de travers, puis elle a toujours 75 excuses pourquoi qu'elle peut pas faire telle chose. Moi, je pourrais pas aller en mission parce que j'ai jamais l'argent pour ça. Moi, c'est pas pareil. Il faudrait que j'y aille avec au moins 5-6 personnes tout seul, je pourrais pas y aller. Si tu vis toujours dans les excuses, tu te rendras jamais là où que si tu veux aller plus loin puis d'en faire plus. Alors, il faut transférer les excuses. Autrement dit, les éliminer, transférer les excuses, transférer nos émotions aussi et transférer nos peurs en foi. La foi, qu'est-ce que c'est vraiment? Quand on regarde, la parole de Dieu dit, or la foi vient. Si elle vient, c'est parce qu'elle est quelque chose. En anglais, ils disent vraiment que la foi, c'est une substance. C'est une substance qui va construire dans le domaine naturel, mais qui vient du spirituel. C'est une substance. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la foi, la parole de Dieu dit dans Hébreux 11, que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Premièrement, ça prend l'espérance avec la foi. La foi, on sait qu'elle ne te l'amène pas tout de suite la minute après. Ça te prend l'espérance. L'espérance va t'amener à penser, je vais l'avoir, je le sais, j'ai espérance, je le sais que je vais l'avoir. Mais la foi, c'est ça, c'est la substance à l'intérieur de toi qui t'amène vraiment à avoir de l'assurance dans les choses que toi tu espères. Amen. Puis la foi, c'est une substance parce qu'elle vient, elle part du trône de Dieu. Dieu, avec la foi, il a créé la terre. Amen. La foi est une substance qui va créer des choses. Fait que nous autres, faut changer nos excuses en foi. Faut changer nos émotions puis nos peurs en foi. Faut les transférer. Puis je voulais qu'on regarde ce soir à des hommes puis des femmes de Dieu. Vous les connaissez tous. J'ai prêché, moi, sur tous les hommes et les femmes de Dieu, qui de la parole de Dieu. On les a tous passés un par un. Une fois, j'avais commencé au mois de janvier. J'ai dit, je vais faire une série sur les hommes et les femmes de Dieu. Puis au mois de décembre, je suis encore sur ma série. C'est pas drôle. Hein? J'ai une pile ça d'autres chez nous. Fait que tu souhaitais pas que je commence ça, parce que vous allez voir que ça dure longtemps. Amen. Mais c'est sûr que je vais répéter des choses, mais c'est parce que je voulais qu'on regarde que les hommes et les femmes de Dieu, des fois on met Abraham sur un piédestal, ou Joseph sur un piédestal, ou Noé, Moïse, mais vraiment, il y avait toutes les mêmes excuses que nous autres on pourrait avoir, il y avait les mêmes peurs, les mêmes sentiments, puis les mêmes émotions que nous autres. Si je regarde à Sarah, premièrement, on va dire son âge puis qu'elle était stérile. Premièrement, c'est même pas des excuses, c'est des bonnes raisons. Vrai ou faux? Demandez-les à n'importe qui a passé l'âge. Amen. C'est, des fois, il y a des gens qui vont m'arriver avec une excuse. Je vais lui dire, donne-moi pas une excuse. Donne-moi une bonne raison, mais pas une excuse. J'en veux pas d'excuse. Mon cadran n'a pas sonné. Oublie ça. Mais en deux, si tu as de la misère à l'entendre. Donne-moi une bonne raison. Amen. Mais même là, Sarah, l'âge qu'elle avait, 90 ans, puis stérile toute sa vie, c'est même des bonnes raisons. Mais il a fallu qu'à un moment donné, elle les change en foi, qu'elle transfère les raisons qu'elle avait en foi. Puis même ses émotions étaient là-dedans. On va aller à Genèse 18. Genèse 18, et puis je vais regarder à partir du verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Et mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? » Vraiment, y a-t-il quelque chose qu'on peut dire, « Oh mon Dieu, je suis étonnée vraiment que le Seigneur, que Dieu aurait pu faire ça. » Non, il n'y a rien d'étonnant que Dieu peut faire. Mais voyez-vous, elle se demandait, elle dit, « Moi qui suis vieille, aurais-je encore des désirs? » Et mon Seigneur aussi est vieux. Vraiment, là, j'ai la preuve aussi que quand j'ai dit à ma mère qu'elle avait 97 ans, j'ai dit, arrête de penser que tu vieillis, t'es vieille. J'avais raison, hein? Parce qu'ils étaient vieux, toutes les deux, puis l'un 90, l'autre 100. Fait que 97, c'était correct. OK? Mais voyez-vous, elle a des émotions, elle aussi. J'aurais-tu encore des désirs? Puis mon Seigneur, pourrais-tu avoir encore des désirs envers moi? Elle avait des bonnes raisons, des excuses extrêmement bonnes. Puis elle avait même des émotions là-dedans. Je pourrais-tu réavoir encore des désirs à ce point-là? Puis lui, pourrait-il encore avoir des désirs envers moi? Mais elle n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'à un moment donné, elle transforme ses excuses qu'elle avait, ses peurs, ses émotions, ses sentiments, en foi. Puis là, elle l'a fait parce que dans Hébreux 11, la parole de Dieu nous dit, au verset 11, ça dit, « C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait les promesses. » Ça veut dire qu'en quelque part, Sarah le dit, « J'ai peut-être des bonnes raisons, mais je ne veux pas rester là. Je vais transférer ça, là, puis je vais penser à la manière de Dieu. Est-ce que Dieu y a été fidèle dans ma vie? » Quand Dieu nous a dit de partir de Ur en Chaldée, est-ce que Dieu il nous a été avec nous? Oui. Est-ce que Dieu il nous a libérés de toutes sortes de situations? Oui. Est-ce que Dieu il nous a fait prospérer comme qu'il a dit qu'il nous prospérerait? Oui. Et toutes les réponses qu'elle avait, c'est oui. Fait qu'elle a dit, OK, je vais transférer toutes les excuses que j'ai en foi. Je crois que Dieu est fidèle, point final. Point final à la ligne. Mais à un moment donné, il faut être capable d'arrêter de marcher sur des excuses. Nous, les chrétiens, c'est toutes les excuses sont bonnes. Je ne peux pas venir à l'église, j'ai un brunch. OK. Gédéon, on va aller à Juges 6. Toutes les excuses sont bonnes. Juges 6, et puis, vous savez que Gédéon, lui-ci a des bonnes excuses. Le Seigneur, il lui dit, au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Bien, Gédéon, il faut qu'il présente à Dieu ses excuses puis des bonnes raisons. Bon, Gédéon lui dit, « Oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, je vais te dire les excuses, pourquoi je ne peux pas. » Ma famille est la plus pauvre à Manassé, puis moi, je suis le plus petit de toute la maison de mon père. Bon, il y a des bonnes excuses. Comment tu veux-tu aller délivrer un peuple complet quand tu vis dans la pauvreté puis tu es ça de grand? Ça n'a pas l'air d'avoir impressionné Dieu. Dieu, il s'est arrangé pour qu'il tourne, transfère ses excuses en foi. Alors l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Qu'est-ce que ça peut faire que tu ne sais pas chanter? Qu'est-ce que ça peut faire que tu ne sais pas danser? Qu'est-ce que ça peut faire que tu as les cheveux plus raides qu'un autre? Ça se frise. Qu'est-ce que ça peut faire que tu bégayes quand tu parles? Le monde va l'entendre deux fois. Mon mari a déjà fait un show, lui, sa base militaire. Et puis, il faisait un joueur de hockey. Et puis, il est arrivé avec ses patins. Puis, le gars qui l'interviewait était moins grand que lui, fait qu'il y avait le micro de même. Puis, il demandait à mon mari, il disait, « Tu suis-tu un régime spécial pour ça, jouer du hockey? » Fait que là, mon mari disait, « C'est parce que je mange des hot dogs à la moue. » Fait que le gars, il dit, « À la moutarde? » Il dit, « Non, en relish. » T'as une des niaiseries de même, là. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que tu bégayes? Le monde va t'aider. Ils vont l'entendre deux fois. Je veux dire par là que des excuses, on peut en avoir. Premièrement, je crois que c'est Smith Wigglesworth qui était plombier, puis c'est un homme qui bégayait énormément. Vous irez voir le gros ministère de Smith Wigglesworth. Il y a des livres, ça, d'épais à lire de lui, de tous les miracles qui s'est passé dans son ministère. Les excuses vont t'empêcher de te rendre à la destination. La plus grande chose qu'on peut avoir dans notre vie, c'est de savoir que Dieu nous utilise. Ça, c'est la plus grande récompense. Quand tu vois que Dieu il t'utilise pour aider quelqu'un, pour parler du Seigneur à quelqu'un, puis lui donner de l'espoir dans son cœur, c'est les plus grandes choses qui peuvent te valoriser. Amen. De savoir que Dieu nous utilise. Alors, voyez-vous, ça, c'était ses excuses. Mais en plus, ses émotions étaient vraiment au comble. Parce que si on commence à lire au verset 11, ça dit, « Puis, vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le tébérinthe d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Madian, c'était l'armée ennemie. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais on voit que ses émotions, ils sont au comble parce que Gédéon, il répond, « Oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Puis où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Tu parles d'un gars désespéré. Les émotions sont défaites. Il dit, on s'est fait raconter tout plein de choses. Comment c'est supposé que Dieu il a délivré Israël de l'Égypte? Comment il a fait des miracles? Puis nous autres, on est là ici, on est la descendance. Puis Madian est après nous manger la laine sur le dos. On s'en sortira jamais. Le gars, il est défait, il est découragé. Ses émotions sont défaites. Mais là, il dit, mais non, tu vas battre Israël. Hey, il dit, non, attends un peu, c'est pas rien que ça, là. Là, tu viens, tu me dis ça, puis je viens de la famille la plus pauvre, puis je suis le plus petit de la gang. Et, OK, quand les émotions, là, t'es pas capable, après ça, c'est les excuses. Mais merci Seigneur que ça l'a viré en foi. Amen. Il a été obligé de transférer toutes ses excuses, puis croire vraiment. Puis on sait très bien que dans ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas à l'intérieur d'eux, et puis la guidance qu'il avait besoin était extérieure. Fait qu'il a dit, il a fait un compromis avec Dieu, puis il a dit, OK, je vais mettre une toison dehors, puis si elle reste sec, puis tout le restant est mouillé, moi, ça va que tu me parles, que tu es avec moi. Après ça, pour être sûr, il dit, on va le refaire encore, mais cette fois-ci, on va faire l'inverse. La toison va être mouillée, puis le restant va rester sec. Ça marche encore. Bien, il dit, ça a l'air à marcher. Aujourd'hui, on fait plus des choses comme ça. Parce que l'Esprit Saint rend lui-même témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu, puis qui on est, puis qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. Mais c'est juste pour dire qu'il est obligé de transférer ses émotions, ses peurs, ses excuses en foi. Amen. Après ça, si je regarde à Rahab, c'était une prostituée, probablement rejetée de toute sa famille au complet, et puis peut-être pas trop fière d'elle non plus, du travail qu'elle faisait. Et puis elle est obligée de transférer ses peurs. On va aller à Josué, c'est tout de suite après Deutéronome, Josué 2. Et puis, il y a des espions qui sont arrivés chez eux. Puis si je regarde au verset 8, ça dit, « Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous nous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, puis on a perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Voyez-vous, même si ses émotions étaient découragées, puis elle sait que tout le pays est découragé aussi, puis même si tout le monde a perdu courage, puis même si ils ont perdu courage devant tout, il y a une chose, elle transfère ses peurs en foi. Elle les transfère. Elle dit une affaire. J'aime mieux croire dans vous autres. Puis j'aime mieux croire que Dieu en haut, c'est le vrai Dieu qui est en haut et dans les cieux puis sur la terre. On le croit. Voyez-vous, eux autres, ils ont juste entendu parler. C'est un autre peuple. Ils ont entendu parler que les Israélites ont sorti puis ont passé la mer Rouge à sec. Et puis comment que partout ce qui passe, Dieu est avec eux autres. Puis l'effroi le prend de voir comment, si Dieu est avec eux autres, qu'est-ce qui nous arrive à nous autres. Puis les Israélites, eux autres, ont Dieu avec eux autres, puis ils ne craignent pas. Des fois, je pense que si pendant une journée, on vivrait sans la présence de Dieu dans nos vies. Moi, vous dire, la journée d'après, je pense qu'on passerait la journée sur nos genoux à vouloir la réavoir. Amen. Alors, elle l'a transféré. Puis même si elle avait toutes les excuses au monde parce qu'elle était une prostituée, puis elle avait peur de tout ce qu'elle avait entendu, elle n'a pas eu le choix de le transférer. Moi, vous dire de quoi? Elle puis toute sa famille, ils ont tous été sauvés. Moïse. Quand je regarde à Moïse, je suis vraiment impressionnée parce que je méditais sur lui puis je me disais, lui, quand il était jeune, il s'est fait élever par la fille de Pharaon. Elle l'a eu très jeune, la nourrice l'a nourri un temps, mais après ça, c'est elle qui l'a élevé. On sait qu'il avait 40 ans quand il s'est en allé dans le désert parce qu'il a été 40 ans dans le désert, il est revenu avec 80. Ça veut dire que pendant 35 ans, c'est elle qui est sa mère. Il a seulement connu elle, la fille de Pharaon. À toutes ses fêtes, c'est elle qui faisait le gâteau, puis qui achetait ses cadeaux. Elle l'a fait instruire dans les plus grandes écoles de l'Égypte. Pharaon était très instruit. Pharaon, il a été élevé dans toutes les richesses de l'Égypte. Puis il y avait des sentiments impliqués dans sa décision, lorsqu'il aimait mieux souffrir avec le peuple d'Égypte. On va aller à Hébreux 11. Hébreux 11. Puis la parole de Dieu nous dit, au verset 24, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Mais on vous dit de quoi? C'est quelque chose, parce que je suis certaine qu'il y avait de l'amour pour cette femme-là, qu'il n'a pris soin depuis qu'il est tout petit. Pour lui, c'est sa mère. Puis pour la regarder, il a transféré ses émotions. Il aimait mieux marcher par la foi. Amen. Alors, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il était capable de la regarder puis il dit non. Je sais maintenant que j'appartiens aux Hébreux, mais je suis certaine qu'il y avait quand même de l'amour, de l'affection pour cette femme-là. Et il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, on peut voir que lui, premièrement, il a pensé, il les a transférés. Puis, sa façon de voir les choses, il les a transférés. Puis, il n'a pas marché par les émotions, il était capable de transférer par la foi. Il les a toutes faites, les transferts. Mais pourtant, si on médite là-dessus, on s'aperçoit que Moïse aurait eu plein d'excuses. Oui, mais Dieu, c'est cette femme-là qui m'a élevée pendant 35 ans. Après tout, elle m'a donné toute l'affection d'une mère. Elle m'a tout donné. Qu'est-ce que j'avais besoin? Et il peut se rappeler toutes les soirs quand il comptait des histoires, toutes les fois qu'il est arrivé blessé puis qu'elle n'a pris soin, et toutes les fois qu'elle donnait ce qu'il aimait le mieux à manger. Il peut se rappeler toutes ces choses-là. Je veux juste que vous vous rentriez dans la tête que quand la parole de Dieu dit que pour l'amour de Christ, tu vas laisser ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes biens, si tu aimes Dieu. Ça veut dire que tu ne marcheras pas par les sentiments puis par les émotions. Tu vas transférer ça pour la foi. Amen. Mais Moïse l'a fait. Moïse l'a fait. Non seulement l'attachement qu'il avait pour sa mère, mais en plus, la richesse qu'il pouvait avoir, si on peut voir une personne qui s'est détachée de tout, c'est bien Moïse. De l'amour d'une mère, parce que dans le fond, il ne l'a jamais connue, sa vraie mère. Et puis, après ça, toutes les richesses, écoutez, il est dans la meilleure position qu'une personne pourrait demander. Il est droit là, assis à côté de Pharaon. Pharaon, c'est son grand-père. Il est dans la maison de Pharaon, toutes les richesses de l'Égypte. Mais il regardait la richesse avec Christ, plus grande que tout ce qu'il y avait là. Ça, c'est d'être capable de transférer toutes tes émotions, tout ce que tu vois, toutes tes excuses pour la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si on va dans le Nouveau Testament, je le sais, vous le savez par cœur, la femme avec l'issue de sang, dans Marc 5, combien de vous savez qu'elle avait toutes les excuses au monde? Oui, mais la foule est là. On va tourner à Marc 5. Marc 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Voyez-vous, elle a transféré toutes ses excuses qu'elle pouvait avoir. Premièrement, quand elle regarde la foule, elle ne peut même pas s'approcher de la foule parce qu'elle est déclarée comme une femme impure, parce qu'elle a une perte de sang. Elle puis les lépreux étaient déclarés des impurs. Elle ne peut même pas s'approcher de la foule. Elle a une excuse déjà. La deuxième, c'est que le chef de la synagogue qui a le pouvoir de la faire lapider est là. Ça, c'est la deuxième excuse. Troisième excuse, c'est que le chef de la synagogue, qui est beaucoup plus important qu'elle aux yeux du monde, a une urgence dans sa vie, c'est sa fille est après mourir, est à l'extrémité. Elle aurait pu dire, comme plusieurs personnes vont dire, ben, je pense que si Dieu voudrait que je sois guérie, je pense que Dieu y aurait préparé un moyen pour que ça y aille mieux que ça. Je pense que Dieu y aurait préparé une façon pour que je sois capable d'approcher Jésus. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça? Je pense que si le Seigneur il aurait voulu que je sois là jeudi matin, pour entendre sur la guérison, fait prier sur moi, il se serait arrangé pour que j'aie un transport pour que je vienne. Non, Dieu, il s'est arrangé pour que l'Église soit ouverte, que la parole soit prêchée. Toi, tu t'arranges avec le reste. Elle, elle s'est arrangée. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle a transféré ses excuses en foi. Parce que vraiment, il y a plein de gens qui me disent plein de choses. « Oh, je pense que j'ai compris, tu sais, dans le fond, regarde, ça ne marchait pas, puis ça non plus. » Fait que je pense que c'est Dieu qui me le montrait, que ce n'était pas ma place. Mais vous dire de quoi? Non. Ça, c'est des... Je veux juste vous montrer c'est quoi des excuses. Une excuse ne t'amènera pas à l'accomplissement de ce que Dieu veut, le meilleur. Vous savez, il y a une chose qu'il faut se mettre dans la tête. Dieu veut le meilleur pour nous autres. Jésus, il est venu pour que j'aie la vie en abondance. Dieu veut le meilleur. Mais si moi, je passe mon temps à trouver des excuses pour montrer que peut-être c'est mieux de même, bien, je n'ai pas compris que ça vaut la peine d'aller chercher le meilleur. Comprenez-vous? Cette femme-là, elle aurait pu dire, bien, je pense que si Dieu aurait voulu me guérir, il aurait arrangé ça autrement. Parce que franchement, là, Dieu le sait, hein, que moi, je peux me faire lapider, hein, par lui, il a le pouvoir de me lapider. Et puis, en plus, toute la foule qui est là, Dieu le sait comment je suis faible, hein. Puis moi, je suis allée toujours en empirant, puis en rempirant. Et puis, là, je suis tellement faible, Dieu le sait. Je pense que si Dieu voudrait me guérir, il serait arrangé pour que Jésus vienne proche de où ce que je suis. Et puis, ça aurait donné que, je sais pas, moi, il en vient aller aux toilettes par là, puis il serait revenu, il aurait passé aux côtés de moi, puis il aurait arrangé les choses. Puis vu que Dieu, ben, si les choses sont pas arrangées, je pense que Dieu voulait me parler. Hey, ça, là, c'est continuellement que j'en entends des choses de même. Ça, c'est des excuses. Cette femme-là, elle avait le chef de la synagogue qui était là. Elle avait son excuse de ne pas être là. La foule était là. Elle avait son autre excuse. Le chef de la synagogue, sa fille, est à l'extrémité. Voilà un acte. Trois bonnes raisons. Puis en plus de ça, elle est faible. Elle n'a plus d'argent. Elle a mal. Puis ça s'en va toujours en empirant. Mais elle a transféré ses excuses en foi. M'a été touchée, m'a été guérie, m'a sacré mon camp après. C'est tout. Elle a transféré ses excuses en foi. Tant que le monde va vivre dans les excuses, on n'avancera pas à rien. Amen. Bartimée, on va aller à Marc 10. Je vais lire au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Premièrement, Bartimée, ça veut dire le fils à Timée. La parole de Dieu dit, quiconque croit, au moins nous autres, on a un nom, Chantal, Sylvie, Réal, José, Alain, on a un nom. Mais lui, il est même pas quiconque. Il a même pas de nom. Le fils à Timée, c'est ça que ça veut dire. C'est pas André ou Paul, c'est le fils à Timée. C'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de nom, mais sais-tu quoi? Lui, il s'est considéré comme quiconque. Quiconque croit. Jésus s'en venait, il ne voit pas, mais il est capable de crier. Amen. Alors, au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Parce qu'il ne peut pas le voir. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Plusieurs le retenaient pour le faire taire. combien de fois l'aveugle, le fils à Timée, qui était sur le bord du chemin, puis qu'il y avait de quoi qui s'en venait, puis il disait, « C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ferme-la, ferme-la! » C'est Joseph! Hein? « C'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se passe? Y a-t-il une émeute? » On te le dira tout à l'heure. Combien de fois vous pensez que ça l'a fait fermer? Là, il a entendu dire que c'est Jésus de Nazareth qui s'en vient. C'est un guérisseur. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu envoyait sa parole et il les guérit. Puis sa parole est venue, puis elle est à chair et en os. Sa parole guérit, puis Jésus guérit, puis il guérira tout le temps, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a entendu que c'est le guérisseur qui s'en vient, Jésus, la parole. Fait que là, il a dit, « Hey, fils de David, aie pitié de moi, les autres. » Tais-toi. Il a fallu qu'il passe par-dessus le rejet. Par-dessus ses émotions brisées, par-dessus qui est un moins que rien, puis il n'y a même pas de nom. Tais-toi le fils à Timée, tu es fatiguant. Merci qu'il a crié encore plus fort. Parce qu'il a transféré ses peurs, ses émotions, ses craintes, le rejet par la foi. Il a transféré ça, puis il a dit, j'aime mieux croire que de rester avec tous les rejets que vous pouvez me donner. Amen. Alors Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et il appela l'aveugle et lui dit, prends courage. C'est ça, prends courage. Devant 5 ans, tu le décourages, puis là, prends courage. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors l'aveugle jeta son manteau. Il a vraiment transféré toutes ses émotions en foi. Parce qu'en jetant son manteau d'aveugle, parce qu'un manteau, il portait un manteau spécial, les aveugles. Aujourd'hui, c'est une canne blanche. Mais dans ce temps-là, c'est un manteau de mendiant. Il l'a jeté tout de suite à terre parce qu'il n'aura plus besoin. Amen. Alors, l'aveugle jeta son manteau. Il se leva d'un bond. Il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Nous, les gens du Nouveau Testament, les gens qui avons reçu maintenant Jésus comme notre Sauveur, puis qu'on a reçu la promesse que Jésus nous a fait avant de partir, qu'il intercéderait auprès du Père pour qu'on reçoive l'Esprit Saint. On a tout pour nous aider à transférer nos peurs, nos rejets, nos excuses en foi. Puis on va aller à Jude 20. J'ai dit tantôt que la foi, c'est une substance qui vient du trône de Dieu. Amen. Puis qui nous amène à obtenir les choses qu'on espère, à avoir de l'assurance dans les choses qu'on espère. Amen. Puis dans Jude 20, la parole de Dieu dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Nous, on a le privilège de s'aider avec le Saint-Esprit à demeurer dans un état de foi malgré nos excuses, malgré nos peurs, malgré nos émotions qui sont ébranlées, malgré nos rejets. On a le privilège de pouvoir se bâtir dans la foi, puis comme ça, les excuses puis ces choses-là vont diminuer aux côtés de nous. La parole de Dieu dit, pour vous, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Ça veut dire que si moi, je prends l'Esprit de Dieu, et puis que je dis, maintenant, je vais prier en langue. Je vais m'édifier moi-même sur ma foi, afin que ce soit la foi qui me domine et que je sois capable de demeurer transféré dans la foi au lieu. Fait que là, quand mes excuses veulent s'élever, parce que même comme pasteur, des fois j'en ai des choses. Des fois, ça me vient plus fort qu'autrement. Ça va dire, tu sais que t'es une femme. Ça me le dit encore souvent. Surtout le dimanche matin, quand je vois 185 personnes, puis il y a plein de couples, puis d'hommes, puis tout ça. C'est énervant. Si tu arrêtes deux minutes là, puis tu te dis dans ta tête, tout ce monde-là, il y en a qui ont fait une heure de route pour venir écouter ce que j'ai à dire. Ah! Des fois, les excuses viennent. Oui, mais dès que l'argent diminue, dès que tout le monde dit que ça va faire un crash à un moment donné, l'économie. Le monde, ils disent à un moment donné qu'on va tout payer avec une puce. Mais comment je fais pour pas marcher par les excuses? Comment je fais? Mes émotions, des fois, ils sont ébranlées. Parce que les femmes, on prend les choses différemment. Puis des fois, je vais dire, il me semble que cette personne-là me regarde drôlement depuis quelque temps. J'essaie des fois de la rejoindre. Puis il me semble qu'on dirait que ses yeux évitent les miens. On est différents. Des fois, je vais dire ça à mon mari. Je ne veux pas remarquer ça au moins. Oh non, tu vois, OK, ça doit être ma tête. Mais pour remonter, pour monter par-dessus les excuses, les émotions, les peurs qui pourraient s'élever, j'ai un choix. Je peux dire, Seigneur, je veux marcher par la foi, puis ta parole de Dieu dit que tu m'équipes, que tu prends soin, que tu m'amènes à être, que tu me changes, que tu me transformes, que tu me remplis. Alors, je vais prier en esprit sur ma foi, pour me bâtir. Comme ça, je vais pouvoir être sûr d'être bien transféré. Merci qu'on a ce privilège-là, de pouvoir nous édifier, nous, sur notre très sainte foi. Parce qu'eux autres ne l'avaient pas dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'ils mettaient des petites guenilles à terre et attendaient qu'elles viennent tremper. Amen. Pour être sûr, d'être sûr. Tandis que nous autres, on peut prier. Pensez-vous que l'apôtre Paul, combien de vous savez que l'apôtre Paul, il en avait des excuses? Lui, il en avait. Il s'en est jamais servi. Mais il en avait des excuses. Tout le monde sont après moi, je me suis fait lapider, je suis acheté en prison. Toutes les excuses sont là pour... Combien de vous savez que vous auriez abandonné bien avant lui? Il n'a jamais abandonné lui. Mais vous autres, vous auriez abandonné. Amen. Mais il y a une chose avec l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit, « Je rends gloire à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. » Amen. Pourquoi? Il s'est édifié sur sa très sainte foi quelque part. Sinon, il n'aurait pas été capable de transférer des excuses qui se levaient dans sa vie à la foi dans laquelle. Puis dans 2 Timothée 4, 7, on va tourner. Verset 7, il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Puis, comme je vous dis, si vous lisez l'apôtre Paul, tout ce qui peut avoir passé au travers, mais là, on vient de faire un naufrage, puis là, je viens de me faire mordre. Moi, là, écoute, là, quand c'est rendu que les serpents sont après moi, là, j'ai toujours une limite, hein? Tant quand c'est pas le vent, puis la tempête, puis le naufrage, puis le monde, là, c'est rendu que les bébites se mettent après moi. Moi, là, je suis écœuré. Oui, mais il y en a qui sont écœurés bien avant ça, hein? Et la phrase miracle, « Puis qu'à t'aide! » Amen. Non, mais c'est vrai. Mais il savait comment transférer ça. Que les excuses n'étaient même pas importantes. Les sentiments, les émotions, le rejet, toutes ces choses-là, les peurs qui pouvaient s'installer, c'était plus important. Il était capable de transférer ça en foi. Puis dire non, il y a un ange de Dieu qui m'est apparu, puis d'atit, Dieu, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est lui qui a tout écrit ces choses-là. Puis quand il les a écrits, là, il n'est pas assis sur un beau banc avec une petite table à côté avec un grand verre d'eau. Bien des fois, les choses qu'il a écrites, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, là, il est attaché d'une prison, les deux mains dans je ne sais pas quoi jusqu'aux genoux, ça sent méchant, les rats se promènent. Parce que c'était comme ça, les prisons, dans ce temps-là. Ils mettaient les prisonniers dans les égouts de la ville, puis ils attachaient. Puis ils disaient, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? On disait de quoi les excuses, ils avaient. Mais ils étaient capables de transférer en foi ces choses. Amen. Puis c'est ça qu'il faut. Il faut toujours transférer. Il faut dire non. Amen. Merci, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Quand on était à Chatham, au Nouveau-Brunswick, puis que je dis que mon mari avait parti 6 mois et demi, puis quand il est revenu, j'avais trouvé une bosse sur mon corps, puis qu'après ça, j'avais été chez le médecin, puis que le médecin, elle avait dit, « Madame, vous savez, ça peut être un cancer. » C'est rare qu'un médecin va arriver, puis va être, surtout vous le 20 ans, 25 ans, il me semble qu'il parle encore moins de même. Et puis, j'ai été obligée de transférer mes sentiments, mes émotions, mes peurs, puis les transférer en foi. C'était soit que j'embarquais là-dedans, puis je dis, c'est vrai. Parce que la première chose que le diable me dit quand j'ai trouvé une bosse sur mon corps, c'est, ça n'a pas marché, hein, quand il est parti 6 mois et demi, puis tu as cru. Bien là, ça ne marchera pas non plus, puis d'ici Noël, tu vas mourir. Puis là, ton mari va revenir, parce que moi, c'était tout le temps ça, tu vas mourir. T'sais. Et puis, ton mari va revenir, puis c'est à peine si tu vas avoir du temps avec lui, parce que là, tu vas tomber des gros traitements, puis tu vas être morte d'ici à Noël, puis tout ça. Il a fallu que je transfère les peurs qui s'élevaient en foi. Et je vais vous dire ce que j'ai fait. Là, j'ai fait du ménage dans la maison, parce que moi, quand je suis nerveuse, là, je fais du ménage. Ça devient spick and span. Et puis, je passais à balayeuse, puis j'avais mon radio à côté de moi, transistor. Puis là, je mettais une cassette sur un bord, j'écoutais la parole de Dieu. Puis quand c'était fini sur un bord, je le mettais sur l'autre bord. Je l'ai recommencé, la celle qui me parlait le plus. Je pense que je dois l'avoir écouté 8 fois la même journée. Puis je me promène, puis j'écoute ma cassette. Et puis, je transférais mes peurs pour aller chercher la foi. Je voulais faire le transfert. Je voulais pas penser ce que le médecin avait dit. Je voulais pas penser aux choses que le diable essayait de me dire. Puis voyez-vous, quand le médecin me rappelait, elle l'a pas dit, en fin de compte, c'était autre chose. Elle a dit, il y en a plus. Mais si on veut atteindre le but que Dieu a pour nous, le but que Dieu a pour nous, c'est qu'on vive et qu'on ne périsse point, pour nous rassasier de longs jours, qui dit dans la parole de Dieu. Je le rassasierai de longs jours, le Proverbe 91, le dernier verset. Et je lui ferai voir mon salut. Puis comme j'ai déjà dit, je lui ferai voir la grandeur de mon salut. Parce que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était pour qu'on soit enrichi. Jésus a subi le châtiment qui nous donne la paix. Jésus a souffert les meurtrissures duquel on a été guéri. Il nous a positionnés pour le meilleur dans tout. Mais moi, je veux aller chercher le meilleur. Mais il faut que je transfère. Si j'aurais pas transféré, la bosse aurait grossi. Ça, c'est sûr et certain. J'avais le don de faire grossir les affaires. Je l'ai déjà dit ici, que j'ai déjà lu des livres de personnes qui avaient la lèpre, puis après ça, j'avais des plaques ovales sur le corps, juste de lire un roman feuilleton. Alors, j'ai transféré. Puis ça, il faut que je fasse ça continuellement. Dans ma tête, ça dit toutes sortes de choses. On peut pas empêcher les oiseaux de voler, mais on peut empêcher les oiseaux de faire un nid sur notre tête. On ne peut pas empêcher les pensées de venir, mais on peut empêcher les pensées de faire un nid dans notre tête. Amen. Mais il faut apprendre à transférer les peurs, les craintes, les excuses en foi. Puis pour ça, ça prend la parole de Dieu et on a le privilège de pouvoir s'édifier sur notre foi qu'on acquiert par la parole de Dieu. Amen. Fait que j'ai marqué « Transférons à la manière de Dieu et voyageons first class. » Amen. Si, en réalité, l'apôtre Paul, lui, était first class, il était première classe dans les avions. Mais dans les avions, dans qu'est-ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Parce que même s'il se faisait mordre, lui, il checkait ça, puis il continuait. Lui, il était dans un royaume. Tu sais, des fois, quand je suis venu au Seigneur, moi, je ne partais pas à terre. Hein? Je marchais, puis on ne sent pas le trottoir dans ce temps-là. Hein? Tu sais, quand on est venu au Seigneur, on volait. Hein? Mais lui, l'apôtre Paul, il volait tout le temps. First class. Lui, il était au-dessus des situations. Il n'était pas en dessous. Amen. Mais il transférait ses choses continuellement. Amen. On va terminer avec Colossiens 1, une écriture que vous connaissez tous par cœur. Colossiens 1. puis verset 13, ça dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption puis le pardon des péchés. » Voyez-vous, tant qu'à Jésus, lui, nous a déjà transférés. Voyez-vous, Jésus, lui, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis après ça, il nous a transférés, puis il nous a mis dans le royaume du Fils bien-aimé. C'est nous autres maintenant qu'il faut qu'on transfère toutes les choses. Spirituellement, on est déjà transférés, on appartient déjà au royaume du Fils bien-aimé. Mais nous autres, il faut qu'on transfère nos peurs en foi, nos émotions, nos rejets, les choses, les circonstances qui s'élèvent dans nos vies, il faut les transférer en foi. Il faut se transférer. Amen. La tête et le corps, il faut le transférer dans les choses. Et à ce moment-là, on vit comme des enfants de roi, comme des enfants de royaume. Amen. Alléluia. On va se lever debout. Il y a bien des choses qu'on doit transférer. On va voir si la semaine prochaine, on transfère encore. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. On va faire une confession ensemble ce soir. Amen. Père éternel, je crois que je pourrais avoir, vu que je vis dans ce monde, des excuses, des émotions, des circonstances et des peurs qui s'élèvent. Mais Seigneur, je crois que j'ai été délivré de cette puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Alors, Père éternel, montre-moi et apprends-moi à toujours transférer toute chose dans un climat de foi. Parce que je sais que la vie et la vie en abondance m'appartient. Et je te donne la gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça nous appartient, vous savez. Le corps de Christ marche dans un niveau très bas de qu'est-ce que vraiment on devrait marcher. Amen. On n'a pas encore la compréhension de tout ce qu'on peut avoir continuellement. On a tellement de petites choses à combattre dans notre tête. Oh oui, mais regarde ce que Dieu a fait, là, arrête d'en demander. Comment de vous, vous avez été élevé comme ça? Regarde, là, t'as eu ça, là. Sois contente de ça, là. Arrête de demander d'autres choses. Mais pourtant, Dieu... Puis on dirait qu'on agit comme ça avec Dieu aussi. Moi, je suis la première à avoir à travailler beaucoup là-dessus. Beaucoup. C'est comme, ben là, tiens, tu vas devenir super gâté dans le Seigneur. Mais après ça, il faut que je me réapplombe et je dise, oui, Seigneur. Et plus je vais être gâtée, plus je vais pouvoir en gâter d'autres. Il faut tellement que je transfère toutes mes excuses en foi. Amen. Chacun de nous. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur.